Capi, c'est parti!
Radio Capi célèbre ses 15 ans d'existence le 25 février 2017. Plusieurs activités sont prévues pour célébrer cet événement.
Une exposition photo, des journées portes ouvertes, un tournoi de football avec quelques médias de la place, ainsi que des émissions spéciales aux couleurs de cet anniversaire.
Radio Capi, 15 ans de liberté d'expression.
Merci de votre fidélité au Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous parlons dans cette deuxième tranche de l'émission des maladies, de comment lutter contre les maladies qui affectent, je veux dire, le maïs dans les champs. Ingénieur agronome Mamba Mamba Damas, coordonnateur national des cliniques des plantes, et notre invité. Ingénieur Mamba Mamba, bonjour. Ingénieur Mamba Mamba, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour. Alors, bonjour monsieur le journaliste.
Bien, bonjour. Nous parlons de du maïs qui est cultivé dans presque toutes les provinces du pays, mais parfois les agriculteurs enregistrent des mauvaises récoltes suite à certaines maladies qui attaquent cette plante. Alors, quelles sont ces maladies qui attaquent généralement le maïs?
Oui, nous avons les maladies fongiques, il y a des champignons, nous avons des bactériennes. Nous avons des maladies virales dues au virus et nous avons également des insectes qui attaquent la culture du maïs en champ.
Oui, par exemple, actuellement, on parle des chenilles qui attaquent le maïs vers le Katanga, Zambie, même au Zimbabwe, qui détruisent les champs de maïs. Alors, qu'est-ce que les agriculteurs peuvent faire pour prévenir des pertes énormes au niveau de leurs champs?
Oui, c'est vrai, il y a eu l'alerte qui a été donnée par la FAO qui a constaté au Sao Tomé, en Guinée équatoriale, la présence de chenilles qui sont de lépidoptères. Mais nous en avions déjà, nous avions d'autres chenilles qui ne sont pas les types de chenilles qui sont annoncés. Donc, les chenilles que nous avions le nom scientifique, je vous en épargne, nous en avions déjà qui étaient en train d'attaquer les champs de maïs et nous sommes en train de, dans le cadre de la surveillance phytosanitaire, il y a deux équipes d'enquête qui ont été dépêchées au nord Ubangi. Mmh. Et également, nous avons l'alerte dans les Katanga.
Voilà, dans les Katanga et dans le nord Ubangi.
Oui, dans le nord Ubangi. Mais on est en train de chercher à identifier si c'est l'organisme de quarantaine qui est annoncé à l'est, qui est annoncé à Sao Tomé, si c'est le même organisme de quarantaine qui ravage.
Alors, comment est-ce que ces chenilles arrivent à ravager le maïs, les champs de maïs?
En fait, les symptômes qui sont édictés, donc, il y a d'abord les feuilles qui sont rongées. Les feuilles qui sont rongées. Il y a des galeries dans la tige. Des galeries dans la tige. Et qui entraînent également de pourriture des tiges de maïs. Il y a les épis, les tiges qui cassent. Et ça a une incidence directe sur le rendement du maïs.
Voilà, c'est là une incidence sur le rendement du maïs. Alors ces chenilles, quel est leur mode opératoire? Comment est-ce qu'ils opèrent généralement pour s'attaquer aux champs de maïs?
Bon, vous avez toutes sortes de champs. La phase adulte, ce sont des papillons. Ce sont des papillons qui pondent des œufs. Les œufs pondus se transforment dans la phase larvaire. En termes de les chenilles, c'est la phase larvaire. La phase larvaire, les chenilles font des galeries dans la tige en cherchant à consommer la sève. En cherchant à consommer la sève, et à partir de là, ça fragilise la tige de la plante.
Voilà, ça fragilise la tige. On va retrouver tout à l'heure le temps de lire la question de Théophile Teddy Tendai. Il dit en ce qui concerne le maïs, on peut parler de manque de contrôle. Quand il n'y a pas de contrôle, les maladies peuvent envahir les champs et détruire le maïs, et il parle du manque de sarclage aussi. Cela peut être à la base de cela. Mais il y a actuellement des chenilles qui attaquent le maïs. On l'a suivi même dans les informations dans les Katanga et ailleurs.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Comment lutter contre les maladies qui affectent le maïs dans les champs? Ingénieur Mamba, coordonnateur national des cliniques des plantes, était tout à l'heure au téléphone. Maintenant, il est en face de moi. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, ces chenilles, je disais, comment ces chenilles opèrent exactement pour attaquer les champs de maïs?
Il faut prendre que la phase adulte, c'est un papillon. Ce qu'on appelle les lépidoptères. Ils pondent des œufs. Les œufs sont pondus sur le plant du maïs. Et ces œufs se développent en phase larvaire, qui sont des chenilles foreuses qui font de galeries dans la tige de la plante à la recherche de la sève qui trouvent. Et en consommant maintenant la sève, ils entrent en compétition avec la plante. Et dès qu'il y a des galeries, la plante est fragile.
Elle est fragilisée, bien sûr.
Oui. Et là, vous constaterez par les feuilles supérieures de la plante, il y a des trous. Également, la feuille est rongée. Et toujours dans la phase du développement de la maladie, vous constaterez, deux fois on constate, il y a des aspects de pourriture ou des déjections dues à ces organismes nuisibles. Et bref, la plante fragilisée, elle se casse. Donc il n'y a pas moyen d'arriver à trouver la production escomptée.
Et ces chenilles opèrent en une journée ou bien ça prend du temps?
C'est toujours constaté de quelques jours à quelques semaines, voire même quelques mois. Mais les pertes sont estimées de l'ordre de 50 à 100%. Surtout dans les lisières forestières.
Donc, c'est énorme.
C'est extrêmement énorme. Ce qu'il faut signaler aux uns et aux autres, c'est que nous avions d'autres sortes d'épidoptères, c'est-à-dire des chenilles, qui existaient déjà chez nous, Eldana, ses amis, et également les Bioceola, qui existaient.
Qui attaquaient déjà les maïs.
Qui attaquaient déjà les maïs. Mais, ce qui est annoncé comme un organisme de quarantaine très dangereux, qui vient de Sao Tomé Principe, qui est constaté au Kenya également, en Guinée équatoriale, c'est pour cela qu'il y a des enquêtes, des études, avec l'appui de partenaires, qui est la FAO, a mené certaines enquêtes dans le Nord Ubangi. Et également, on vient d'apprendre, les Katanga nous fait l'alerte, qu'on constate dans les Katanga
la présence des chenilles.
Des chenilles
dans les champs.
Mais maintenant, ce qu'il faut, puisqu'il faut jamais s'empresser pour dire, est-ce que c'est le même type de ravageur qui est constaté, qui est déjà annoncé comme de quarantaine? Il faut dire, l'organisme de quarantaine, c'est celui qui pose des dommages économiques énormes, qui est rare dans le pays. Et qui est rarement dispersé dans le pays, mais qui n'existe pas dans votre pays. Alors, nous sommes dans la phase où il est rarement reparti dans le pays, Mais il n'existe pas dans le pays.
Cette espèce de chenille qui attaque le maïs au Katanga, ça vient de la Zambie. Si on peut, ça provient de la Zambie.
Maintenant c'est dans la phase d'analyse des risques des organismes nuisibles. Nous avons ce que nous sommes en train de faire dans l'évaluation du risque. Nous constatons l'entrée de l'organisme, son installation, sa dissémination et ses dégâts. Alors maintenant, les études c'est pourquoi il y a alerte, qui doivent être faites, c'est de savoir est-ce que le potentiel d'introduction est-il très élevé. Deux, le potentiel de dissémination est-il très élevé? Et le potentiel d'installation est-il très élevé? Donc, c'est à ce moment-là qu'on découvre que l'organisme nuisible est hautement de quarantaine. Et à ce moment-là, vous devez prendre des mesures de gestion de cet organisme.
Et surtout que vous avez dit les pertes peuvent aller jusqu'à 100%.
Exact, exact.
Donc vous perdez, il n'y a aucun rendement.
Non, il n'y a rien. Alors, vous savez l'importance de la culture du maïs dans notre pays.
Bien sûr.
Donc, si on observe de pertes énormes comme ça, il faut prendre des mesures de gestion.
Et Maka Jurès nous appelle des Bandonouville. Bonjour.
Bonjour. Bonjour et Jody, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et je salue aussi l'invité. Et j'ai des questions à poser. Donc, une question à poser à l'invité, mais qui va avoir des volets. Alors, la question est celle-ci. Si vous permettez, à ce que je puisse d'abord vous dire qu'à Bandundu, nous avons souvent remarqué des signes des maladies qui attaquent la culture de maïs, qui se manifestent par les symptômes suivants. Le premier symptôme est celui-ci. Vous remarquerez que après avoir fait la culture de maïs, quand ça pousse à un certain âge, vous remarquerez que le feuille commence à prendre une tendance jaunâtre. Et après, vous allez remarquer que la tige du maïs ne fera que perdre son apparence jusqu'à finir par tomber par terre. Soit, bon, si ça avance, ça ne donne presque pas de graines. La deuxième manifestation que nous remarquons dans la culture de maïs dans la ville de Bandundu est qu'il y a des fois où il y a une tige de maïs qui pousse en bonne santé et à un certain moment vous remarquerez que les graines poussent avec une tendance, donc les graines plutôt qui poussent sous forme de charbon. Alors je ne sais pas si l'invité peut nous dire dans quel type de maladie peut-il classer le maladie donc qui font une telle, donc de telles manifestations. Et comment faire face à cette
maladie. D'accord. Bayard, vous êtes à Kikwit. Bonjour, quelle est votre question?
Oui, merci. Je voulais poser la question de savoir sur les maladies virales des maïs. Oui, justement, je voulais demander si l'invité peut m'expliquer si la struire peut baisser les rendements, énormément les rendements chez le maïs. Si oui,
vous parlez,
deuxièmement, je voulais savoir quels sont les moyens de lutte qu'on peut instaurer chez les villageois, chez les paysans.
Merci. Malonga de Bandundu-Ville, bonjour, quelle est votre question?
Oui, bonjour, Jody, bonjour à notre invité.
Bonjour,
on vous écoute.
Bon, je suis en train seulement de regretter. Est-ce que ces chenilles s'alimentent seulement des maïs, ou bien il y a d'autres moyens que ces chenilles s'alimentent? Puisque moi, lorsque j'étais à l'intérieur de notre province, Bandundu de Mambré, là à Fèche, nous avions trouvé une grande forêt vraiment ravagée par des chenilles. Il n'y avait plus encore des herbes, puisque les chenilles mangeaient seulement les herbes. Si vous arrivez là, en tout cas, c'est une autre forme. Alors, est-ce que ces chenilles-là, ils s'alimentent seulement des maïs? Et lorsque les maïs ne sont pas là, ils vivent comment? Ou bien, est-ce qu'il y a moyen de prévenir lorsqu'il y a, on sème les maïs? Est-ce qu'on peut prévenir que si ces chenilles viennent, n'attaquent pas le maïs?
D'accord. Merci, Malonga. Demande-nous, l'ingénieur agronome, ingénieur Mambamba.
Oui, merci. Distingués auditeurs, les questions que vous avez posées, l'un a parlé du charbon, c'est une fongique.
Des graines de maïs qui ont la forme des charbons.
Oui, c'est une fongique. C'est une fongique. Et l'autre a parlé de viral. Viral, c'est déjà le virus, il a cité lui-même la strure. Mm. Et il y a un autre qui a parlé de jaunissement de feuilles. Je lui dis déjà que les signes de jaunissement est commun à beaucoup de maladies de plantes. Encore faudra-t-il qu'on aille plus loin. Je crois qu'il pourra nous appeler à plus de missions pour essayer d'identifier ce quel genre de maladie. Mais ce qu'il faut déjà reconnaître, que les maladies fongiques du maïs sont presque partout en RDC. Le viral, également la struure, qui est de deux sortes, est également répandu à travers le Congo, notre pays. Mmh. Alors, notre ami pose la question, il a vu à la lisière d'une forêt que le plant du maïs était totalement ravagé. Et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Est-ce qu'il se nourrit seulement du maïs? Mmh. Mais vous savez qu'il y a des graminées sauvages. Les graminées sauvages qui peuvent être aux alentours de votre champ. Quand vous n'avez pas mis le maïs, ça constitue un réservoir naturel, soit des virus, soit des insectes. Et quand vous faites votre champ, en première prévention, la première mesure, c'est faire un très bon entretien et avoir au moins séparé votre champ d'à peu près 3 à 4 mètres de votre champ, un très grand chantier qui sépare, qui va constituer déjà une barrière entre la lisière forestière et votre champ de maïs. Donc ça, c'est déjà une première prévention. Mmh. La deuxième prévention, c'est de recourir à des bonnes semences de maïs. Vous avez l'INERA, hein, vous avez un ensemble de variétés qui ont été mises au point. Donc, vous pouvez approcher l'INERA et également approcher les services de Sénasem qui se trouvent dans les Bandundu. Je sais qu'il y a un service de Sénasem qui est dans les Bandundu qui peut vous fournir des semences qui sont de qualité exemptes de maladies.
Résistantes aux maladies.
Mais quand vous êtes en face d'un virus qui apparaît, vous avez en prévention, vous avez la première des choses, c'est l'arrachage de plants malades. C'est pourquoi il y a la surveillance de champs. Vous devez commencer par arracher ce plant malade en dehors du champ, ouvrir un trou, les enfouir et les incinérer dans ce trou-là pour prévenir contre les virus. Puisque l'homme n'a pas d'armes contre les virus.
Le fait de brûler détruit le virus.
Il faut le détruire, puisque vous arrachez dans votre champ, vous le mettez en dehors du champ, vous avez un trou creusé et vous les incinérez là-dedans. Donc, et arracher hors du champ, il faut le faire soigneusement. Donc ça, c'est déjà à titre de prévention. Et par la suite, il faut voir, puisque c'est ce qui est déconseillé, c'est la lutte intégrée. Combiner plusieurs méthodes pour prévenir. On va jusqu'au bio de pesticides, recourir à de plantes répulsives qui, par leur odeur, ils éloignent les champignons, les chenilles ou les virus loin du champ. Et surtout, l'alerte doit être faite très tôt, puisque tôt on intervient, tôt on a des solutions.
Par exemple, au Katanga, est-ce que l'alerte est arrivée tard ou tôt?
Non, l'alerte est donnée puisque il n'y a personne qui, sauf Dieu le Père, qui prévient que voilà, cette maladie peut arriver. Ils ont constaté. Et c'est l'importance de cette émission qui est une mission de sensibilisation. Donc, vous constatez des symptômes. Vous constatez, approchez-vous de l'agronome qui est proche. S'il n'a pas de solution, et vous approchez le ministère, et le ministère, à votre côté, nous avons les services de protection de plantes du ministère de l'Agriculture. Nous vous avez l'INERA qui est éparpillé dans le coin. Dès que l'alerte est donnée, les différents experts, sous l'égide des services de protection du ministère de l'Agriculture, peuvent recourir à plusieurs experts pour l'identification des organismes nuisibles qui font objet de l'attaque des champs.
Et vous avez dit donc, pour mieux prévenir ces maladies, il faut d'abord séparer les champs de la lisière forestière.
L'une des choses qui est importante, qui est élémentaire.
Il ne faut pas que les champs soient à côté de la forêt.
Il faut la préparation du sol. est d'une importance, les techniques culturales. Il faut connaître l'écologie de la plante du maïs. Il faut la respecter. Vous savez que c'est telle écologie qui est recommandée, et c'est telle condition. Vous préparez votre sol, loin de votre champ de plantation de maïs, vous laissez des allées, hein, qui sont éloignées de la forêt, et en même temps, vous recourez à des semences de qualité, et vous respectez les écartements qui sont conseillés. Vous respectez les écartements. Et quand vous avez semé, vous commencez votre ronde de surveillance. Dès lors que vous voyez une première apparition d'un symptôme qui vous paraît anormal par rapport aux cultures que vous avez semées, vite, vous pouvez arracher ces plantes, approcher les services du ministère de l'Agriculture ou l'agronome des districts ou un autre, pour voir, voilà ce que je constate.
Mais si vous avez des hectares, les champs est tellement vaste, comment faire la surveillance? Il faut chaque matin venir voir comment les plantes évoluent.
La surveillance, c'est l'arme de prévention. La surveillance phytosanitaire, de ronde phytosanitaire, c'est l'arme de taille. Quelle que soit la taille des trucs, vous avez des allées, il faut prévoir, votre champ est délimité en parcelles qui vous permettent de passer, faire les allées pour faire le contrôle. Ça, c'est important, puisque il faut faire l'entretien du champ. Puisque si les champs, c'est comme nous les humains, on doit se lever, se laver. Et la plante, les champs, les techniques culturales, les plus simples, c'est l'entretien, arracher les herbes,
les mauvaises herbes,
et puis faire le constat de ce qui ne va pas. Donc, je crois que ça, c'est important. Et l'important de cette émission également, et que par rapport à la chenille foreuse, c'est l'alerte sur toute l'étendue de notre pays. Ceux qui constatent qu'ils sont en face des chenilles foreuses ou des papillons qui sillonnent les champs du maïs, ils doivent alerter les services de l'agriculture le plus proche, ou les services de l'INERA, ou encore les services de qui est le plus proche, pour vite intervenir. Donc, à ce moment-là, ça nous démontrerait, est-ce que nous sommes en face de la chenille foreuse qui est annoncée comme organisme de quarantaine dangereux, pour qu'on prenne des mesures de gestion.
Bien, nous allons accueillir Daniel de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Daniel?
Ma question, c'est que nous, évidemment, ici, nous avons un champ de maïs. Nous sommes sur le village agricole, hein, de Lumata. Le projet du gouvernement provincial ici. Nous avons constaté évidemment cette maladie. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, je viens de mon champ, j'étais en train de pulvériser là. C'est quoi, je voulais savoir quels sont les modes d'attaque de cette chenille et quels sont ses dégâts qu'il est en train de causer à la plantation.
Oui, vous dites que vous avez remarqué la présence des chenilles dans votre champ?
Oui, des chenilles.
Oui.
Oui, nous avons remarqué ça. Il y a beaucoup de chenilles d'ailleurs. Donc leur attaque est tellement rapide qu'on ne peut pas s'imaginer.
Voilà.
Alors je voulais demander à notre invité quels sont les modes d'attaque et quel genre de dégâts que cette chenille peut-elle causer sur notre plantation.
Bien, merci, ingénieur Mamba Mamba.
Parce que évidemment.
Vous êtes au village Lomata, c'est situé où c'est, sur ce quel axe?
Est-ce qu'il est encore en ligne?
Ah, vous êtes, puisque à un moment vous avez parlé de Kinshasa.
Donc il n'est pas à Kinshasa, vous êtes plutôt à Lubumbashi.
Vous êtes à Lubumbashi?
Je suis à Lubumbashi, oui.
Ah, vous avez annoncé Kinshasa?
Non, c'est plutôt Tati qui se trompait de l'autre côté.
Vous êtes sur l'axe Kasumbalesa. Qu'est-ce que vous constatez réellement sur les champs? Qu'est-ce que vous constatez? Donnez-nous ce que vous observez, vous. Qu'est-ce que vous observez?
Bon, ce que nous observons, d'abord, il y a la présence des trous. La chenille est en train de forer les tiges.
Oui.
Hein, en forant les tiges, vous allez constater qu'à l'intérieur des feuilles intérieures, la chenille est en train de les ronger.
Oui.
Il y a beaucoup de trous. Oui, il y a beaucoup de trous et des excréments.
Oui.
Elle est couverte par les excréments, oui. Oui. Alors c'est difficile, même si vous voulez mettre de l'insecticide,
ouais.
C'est difficile à ce que l'insecticide puisse pénétrer jusqu'au niveau où la chenille est.
Et est-ce que la répartition sur votre champ, c'est un hectare, deux hectares, c'est comment la répartition?
Deux hectares, je suis sur deux hectares.
Et vous pouvez nous donner la superficie attaquée sur les deux hectares? Combien d'arbres? Ou sur tous les champs?
Sur les deux hectares. D'abord, j'ai deux hectares dans le village agricole.
Ouais.
Sur les deux hectares dans le village agricole, il y a 50 carrés.
50 carrés qui sont atteints.
Atteints, oui. Mais dans mon champ personnel, c'était presque un hectare et demi tout attaqué.
Oui, oui. C'est effectivement ce qui est donné, ce que l'attaque est de l'ordre de 50 à 100%. C'est à lisière d'une forêt, oui. Ou dans la savane?
Non, c'est une forêt claire.
Oui, une forêt claire. Oui, tout ce qui est connu, c'est que à l'approche de forêt, l'incidence atteint l'ordre de 100%.
Mmh. Et maintenant, qu'est-ce que Daniel doit faire devant cette situation?
Daniel, les incidences sont réelles. Ce que nous pouvons vous conseiller à l'heure actuelle, il y a des plans sur pied. Il y a des plans sur pied.
Pardon?
Il y a des plantes qui sont semées, oui.
Les plantes qui sont?
C'est le maïs à quel âge à peu près? C'est déjà la floraison ou...
Bon. À quelques jours de la floraison.
À quelques jours de la floraison. Alors, nous constatons que les attaques sont énormes.
Entre...
Oui. Nous constatons que l'attaque est suffisamment énorme. Nous allons, à la fin de l'émission, nous allons vous donner notre adresse email et nous allons juger de certaines solutions que nous pouvons vous donner tout de suite, que vous pouvez voir, puisque... C'est arrivé. La variété du maïs, vous pouvez nous la donner? Vous avez une idée sur la variété?
Panard.
Oui.
Panard, oui.
Oui, alors.
Il a utilisé la variété Panard.
Nous allons discuter avec vous, puisque l'émission a un temps très limité.
Oui.
Nous allons discuter avec vous. Nous allons prendre votre numéro de téléphone pour discuter avec vous sur des pistes, des solutions, puisque là, vous trouvez déjà. 80%
de son champ déjà attaqué.
Décimé, est déjà décimé, voir ce qu'il faille faire.
Peut-être vous pouvez lui donner directement votre numéro au téléphone.
Vous prenez mon numéro, c'est le 081 29 59 330. Email, c'est Damas Mamba, en émo, damasmamba@yahoo.fr.
Voilà, donc
damasmamba en émo, en minuscule, @yahoo.fr. Alors nous pouvons continuer à discuter, puisque l'alerte du Katanga vient d'arriver et on envisage la solution de voir ce qui se passe. Est-ce que c'est la chenille qui est annoncée ou c'est des anciennes chenilles que nous avions dans notre pays? Donc c'est ça qu'il faut arriver à distinguer pour donner des pistes de solutions.
Et vous avez dit tout à l'heure que Daniel doit aller voir les services d'agriculture.
Oui.
Il est trop proche pour aller rapporter ces cas.
Je lui donne ce conseil d'approcher les services du ministère qui sont le plus proche, voir pour que tous nous puissions voir si ce sont la chenille foreuse annoncée qui vient de l'extérieur.
Mais il a confirmé qu'il s'agit d'une chenille, de la chenille.
Oui, non, puisque nous avions d'autres types de chenilles qui étaient ici,
okay,
qui attaquaient déjà nos maïs depuis. Donc, est-ce que nous sommes en face de celle qui est donnée comme alerte de quarantaine? C'est ça ce qu'il faut distinguer.
Donc, à part les Katanga, vous avez parlé aussi du Sud-Oubangui qui est menacé.
Du Sud-Oubangui, il y a une équipe qui a été dépêchée au Sud-Oubangui. Et actuellement, les échantillons sont... en étude à Ibadan, d'après les informations
au Nigeria,
à ITEA. Donc, sont en train pour identifier exactement si c'est l'organisme nuisible qui a annoncé qu'il est très dangereux de quarantaine. C'est ça.
Alors, quel conseil pouvez-vous donner de conseil à tous les agriculteurs qui nous suivent au Katanga ou au sud Ubangi par rapport à cette maladie?
Oui, c'est pour l'ensemble des maladies, puisque le maïs, il y a la strure, il y a la rouille du maïs,
il y a plusieurs maladies, disons.
Il y a tout.
Oui.
Tout ce que nous le conseillons à titre de prévention, c'est le bon choix de la semence. Approchez-vous des services du ministère pour le bon choix.
Quelles sont les meilleures semences aujourd'hui, les meilleures semences de maïs
Les meilleures semences...
Qui résistent aux maladies.
Il ne faut pas dire qu'ils sont tolérantes aux maladies. Ils sont tolérantes aux maladies... il y a Midaki 3 qui est conseillé, il y a les Salong qui n'est pas totalement aussi abandonné, il y a les Kasai qui n'est pas aussi abandonné, il y a un ensemble de variétés qui ont été montées par nos instituts de recherche, surtout l'INERA, et il faut consulter, je n'ai pas les catalogues de Senasem sous mes yeux, mais je pense que les catalogues de Senasem, il y a les services de Senasem au Katanga, dans les Bandundu, ici à Kinshasa. Il faut consulter les catalogues du Senasem. Je n'ai pas toutes les variétés dans ma tête, j'oriente les gens vers les lieux où ils peuvent trouver les bonnes variétés qui sont là.
Alors vous avez dit, pour prévenir ces maladies, il faut séparer les champs de la lisière de la forêt, recourir à des bonnes semences, surveiller les champs.
Oui, surveiller les champs.
Et puis on peut utiliser les plantes répulsives pour chasser ces insectes et approcher l'agronome.
Il faut, fin de compte, l'usage de pesticides appropriés, rationnels, qui sont homologués en RDC, voire aussi l'usage des biopesticides recommandés. Donc, en tout état de cause, c'est l'échange d'informations qui va permettre on a des solutions.
On rappelle votre numéro, 081.
Je rappelle mon numéro, 081-29-59-330, l'adresse email damasmamba@yahoo.fr. Donc, c'est ça que nous pouvons dire aux uns aux autres. Remercier Radio Okapi, c'est déjà la sensibilisation.
D'accord, ils vont peut-être vous appeler après l'émission pour échanger là-dessus. Ingénieur Mamama Badamas, coordonnateur national des cliniques des plantes, merci et bonne journée.
Merci à vous également, merci aux auditeurs.